Jonathan, es-tu un adepte de la livraison de bouffe? Es-tu du genre à te caler de la bouffe souvent?
Pas souvent, une fois de temps en temps, je te dirais. C'est pas régulier. Une fois, non, peut-être pas une fois, une fois ou deux semaines.
Dans la région, il y a Uber Eats qui a été déployé il y a quelques mois. Ça semble fonctionner quand même bien pour les gens autour de moi qui l'utilisent. Mais là, Uber veut pousser ça une coche plus loin. Ils ont annoncé hier qu'ils voulaient s'apprêter à tester la livraison de repas par drone. Donc, dans le coin de San Diego, ils ont eu le hockey de la municipalité. Comment ça va fonctionner, c'est que le drone va aller au restaurant, va récupérer la nourriture, il va aller le porter dans une zone, dans un quartier donné. On pourrait dire, OK, une zone de dépôt dans Saint-Roch, une zone de dépôt à Charlebourg, mettons. Et de cette zone-là, il y a un livreur Uber Eats qui va prendre la bouffe et qui va aller la porter directement au client. Donc, on sauve une étape de bouchon de circulation entre le resto et le quartier donné.
Pour des villes où qui sont très, très congestionnées, pas juste à l'heure de pointe, j'y vois peut-être quelque chose d'intéressant. Ouais. Ici, à Québec, comme on a des bouchons plus aux heures de pointe, sur l'heure des repas, c'est pas tout le temps très, très problématique. J'y vois peut-être pas nécessairement de grands avantages.
Là, ça, c'est pour la bouffe. À San Diego, on l'essaye. Du côté d'Amazon aussi, on veut éventuellement livrer par drone. Le modèle d'Amazon a été dévoilé la semaine dernière. C'est un modèle qui pèse 2 kilos. Il va avoir une autonomie de 25 km. Et eux disent qu'à terme, ils vont être capables de nous livrer en 30 minutes. Donc là, je regarde ça, je trouve ça vraiment ambitieux. Je me demande à quel point c'est réaliste de penser ça. Puis comme c'est un domaine qui évolue à vitesse grand V, le domaine des drones, on va aller questionner un expert, question d'être à jour. Il s'agit de Charles Goyette, il est instructeur en chef à l'école e-drone du côté de Montréal. Bonjour Charles.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
S'il y a une école de drones, ça veut dire qu'il y a de la demande. Moi, j'avais l'impression que n'importe quel kidam pouvait piloter ça. Pourquoi les gens vont chercher des qualifications au juste?
Ben, c'est une excellente question parce qu'on se rend compte que les drones, c'est quand même facile à piloter. Par contre, le problème, c'est au niveau de la réglementation. Donc maintenant, depuis le 1er juin, Transport Canada, qui est l'entité gouvernementale qui réglemente ces aéronefs télépilotés-là, demande que toute personne qui a un drone de plus de 250 grammes maintenant ait un permis pour l'utiliser.
Okay.
Donc ça, c'est nouveau. Et là, ça implique des examens, un peu comme un examen de conduite. Donc, qui dit examen, dit étude, dit formation.
OK. Donc, c'est une formation qui peut durer combien de temps environ si je veux aller chercher cette certification-là de Transport Canada?
Ça dépend des gens et puis ça dépend aussi du type d'examen qu'on veut passer parce qu'il y en a deux. Il y a les examens pour les opérations de base,
okay.
Monsieur, madame, tout le monde, puis les opérations avancées. Donc là, quand on veut être près d'aérodromes, dans des espaces aériens contrôlés. Donc, la formation n'est pas obligatoire. On peut faire ça à notre rythme. Ça dépend de nos capacités d'apprentissage. Donc, je vous dirais, là, en général, ça peut représenter entre 12 et 40 heures, dépendamment des gens.
Et là, 250 grammes, on ne parle pas des petits drones qu'on peut acheter dans les magasins d'électronique, le grand public. Là. C'est quand même quelque chose d'un peu plus poussé, si je comprends bien?
Mais 250 grammes, pour vous donner une idée, là, puis pour ceux qui nous écoutent, là, c'est gros comme la paume de ma main environ. Donc, c'est relativement petit. Puis je vous dirais que oui, effectivement, c'est ça qui en prend plusieurs par surprise. C'est que oui, monsieur, madame, tout le monde, on peut s'acheter des drones comme ça chez Costco ou dans toutes les grandes bannières d'électronique. Là. Donc, même peut-être des enfants à la maison ont des drones de plus de 250 grammes. Donc, c'est très petit.
Et est-ce que Transport Canada, si jamais là, on a un petit drone, là, est-ce qu'ils sont capables d'intercepter le signal parce qu'on commence à distance? Est-ce qu'ils peuvent nous voir si jamais on n'est pas autorisé? Est-ce qu'on peut se faire découvrir assez facilement?
Non, c'est ça. Présentement, il n'y a pas de système de radar qui permet d'intercepter les drones grand public comme ça. Par contre, maintenant, les polices, donc le service de police municipale, pourrait nous demander de produire les preuves comme quoi on a le droit d'utiliser ces appareils-là. Donc, ça risque d'être plus de cette façon-là qu'on va sanctionner ou qu'on va intercepter plutôt que par des moyens poussés technologiques comme des radars que les gens pourraient avoir à l'esprit.
OK. Puis pour les opérations avancées, là, est-ce qu'il faut des autorisations de vol comme des appareils de ligne à chaque fois? Est-ce qu'il faut demander à Transport Canada si on a le droit de lever?
La réponse, c'est oui et non. Ça dépend des endroits où on est. Juste pour donner une réponse générale, si on est dans un espace aérien contrôlé, donc il y a une tour de contrôle, on doit demander l'autorisation à Nav Canada via un formulaire en ligne de 3 pages qui se fait rapidement, environ 10 minutes. Puis on doit attendre entre 24 et 7 jours, entre 24 heures et 7 jours pour avoir l'autorisation de voler.
OK.
Mais sinon, avec le permis, on est autorisé à voler presque partout.
si jamais, je reviens au récalcitrant, là, si jamais on se faisait pincer, est-ce qu'il y a des amendes qui sont rattachées à ça?
Oui, tout à fait. Donc, pour les particuliers, ça va de 1 000 $ jusqu'à 5 000 $, wow, dépendamment, okay, de l'infraction. Et puis, si on est une entreprise, ça peut aller jusqu'à 25 000 $ par infraction. Donc, c'est un pensée bien. On veut être sûr de se conformer à la nouvelle réglementation.
OK. Je veux revenir à mes géants dont j'ai parlé, Uber et Amazon, par exemple. Il y en a d'autres également. Eux s'intéressent à la livraison par drone. Penses-tu que c'est envisageable à court ou à moyen terme?
Mais ça fait déjà plusieurs années, hein, qu'on en entend parler. Peut-être les gens avaient vu les coûts publicitaires de livraison de pizza. UPS avait essayé.
Oui.
C'est quelque chose qui est très intéressant, qui tape à l'œil, mais au niveau sécurité, réglementation, puis ce que ça représente pour le consommateur au niveau des coûts. Donc, si on se commande un cheeseburger à 1,89 chez McDo, puis qu'on inclut là-dedans les coûts de livraison par drone, le hamburger va être beaucoup plus cher.
C'est ça.
Est-ce que c'est réaliste? C'est très intéressant. Moi, je verrais plus des avenues dans des domaines plus critiques, comme par exemple la médecine, livraison d'organes, où là, il y a des vies qui sont en jeu plutôt, okay, qu'un simple hamburger. Mais c'est sûr, c'est très intéressant. C'est beau de voir ça évoluer. Ça évolue très rapidement. Mais je crois que c'est encore pour 3 ou 4 années, certainement.
D'un point de vue technique, c'est quoi les principaux obstacles à l'heure actuelle?
Mais on s'en rend bien compte. L'espace aérien est déjà un petit peu congestionné par des aéronefs habités. Donc là, on rajoute à ça des robots qui, oui, c'est sûr, ont des systèmes embarqués pour éviter les obstacles, mais là, on se rend compte qu'il peut y avoir des oiseaux, il pourrait avoir d'autres drones, il pourrait avoir des immeubles. C'est sûr, on va choisir des corridors aériens qui sont dégagés. Donc ça, c'est un premier danger. Le deuxième, c'est comment on fait pour s'assurer que lorsque le drone se pose, il n'y a pas déjà quelqu'un ou quelque chose qui pourrait nuire à son atterrissage. Puis là, okay, ça pourrait causer des blessures. Fait que ça, c'est un autre défi. Puis on a bien l'autonomie de l'appareil, qui est quand même en ce moment limitée. Donc là, au niveau de la batterie, on parle d'environ 20 à 30 minutes d'autonomie, dépendamment de la grosseur de la batterie.
Donc, faut le charger un peu comme les véhicules électriques. C'est un peu la même chose. Point de vue sécurité, j'y reviens. Charles, est-ce que c'est possible de pirater un drone comme c'est à distance?
Tout est possible. Tout est possible. Donc oui, ça serait effectivement possible de pirater, d'intercepter ces aéronefs-là en vol. Bien que ce soit quand même très sécuritaire, c'est des choses qu'on voit rarement, mais la technologie existe pour le faire.
Mm-hmm. Ça mène encore quand même du bruit, ces affaires-là. Quand il y en a qui volent à proximité, là, je pense dans une foule au festival d'été, par exemple, là, quand il n'y a pas de musique qui joue, on les entend, on sait qu'il y a quelque chose qui nous tourne au-dessus de la tête. Moi, si les, oui, drones passaient devant mon balcon, là, je serais vraiment en terre, là, ça dérange quand même. Est-ce qu'il y a moyen de diminuer ce son-là? Comment on va y arriver de se départir du système d'hélice bruyante comme on a actuellement?
Oui. C'est un très bon point que vous soulevez là. Puis juste pour vous donner une idée, en Australie, présentement, il y a une entreprise, Alphabet, qui a été achetée par Google, fait la livraison de café par drone. Et la plainte numéro un que les voisins ont, c'est justement le bruit que ça mène. Imaginez entendre des dizaines de drones à tous les jours qui sillonnent votre quartier résidentiel paisible. C'est loin d'être reposant.
Mm-hmm.
Donc, présentement, là, la technologie fait que ça demeure bruyant. Ce qu'on souhaite voir, peut-être, bien, ce serait peut-être des aéronefs qui seraient portés par des petites turbines,
okay,
ou peut-être même un aéronef qui serait emporté par un ballon, un peu comme une montgolfière ou un cerf-volant, okay, mais ça irait beaucoup moins vite, on s'en rend compte. Donc, au niveau du bruit, ça va demeurer un problème numéro un.
OK. Question d'auditeur en temps réel. Tu parlais du froid, ça affecte l'autonomie des batteries. Est-ce que vous êtes quand même capable de faire voler un drone de façon efficace dans l'hiver québécois? Mettons qu'il neige pas, là. S'il fait froid, est-ce que ça change quelque chose?
Oui, ça va changer quelque chose. La solution qui a été imaginée par les manufacturiers, c'est un peu comme les voitures, donc de mettre un câble chauffant aux batteries, qui va les préchauffer, qui va les permettre de les utiliser jusqu'à du moins 20, moins 30 degrés Celsius. Donc, c'est sûr, ça demande un petit peu plus d'énergie à la batterie de garder sa température. Mais oui, pour nos hivers québécois, maintenant, il y a des solutions qui existent pour ça.
OK. On n'est pas encore rendu à la livraison de marchandises. Comme tu l'expliques, il y a plusieurs obstacles. Il y a quand même des usages qui sont peut-être moins connus du grand public. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler, notamment les compagnies d'assurance s'intéressent de plus en plus aux drones. Pourquoi au juste?
Bien, en fait, quand il y a des sinistres, souvent, ça va être relié à l'inondation, catastrophe naturelle. Donc, ça va toucher le bâtiment, l'extérieur, la couverture. Et puis là, qui dit sinistre, ben dit peut-être souvent difficulté de se rendre sur lieu ou même d'accéder à l'immeuble. Donc avec les drones, maintenant, les compagnies d'assurance, ce qu'ils peuvent faire, c'est modéliser le bâtiment.
Okay.
Puis à l'aide d'un modèle 3D effectué par drone, ils sont capables de prendre des mesures, sont capables de faire des relevés, puis de faire des estimés, des soumissions beaucoup plus facilement que d'envoyer un inspecteur sur place monter à l'échelle comme on faisait traditionnellement.
Donc, par exemple, dans des situations d'inondation, on peut envoyer un drone survoler le secteur et là, on peut voir l'étendue des dégâts.
C'est ça, avec les autorisations nécessaires, bien sûr, mais oui, ça serait une des options que les assureurs pourraient faire avec les drones.
OK. Aussi, en agriculture, on utilise des drones. Pourquoi exactement?
Oui, il y a plusieurs domaines. Maintenant, on appelle ça l'agriculture de précision. On utilise les drones, je voudrais, dans deux grandes catégories d'opérations. Le premier, c'est pour les opérations d'épandage de produits chimiques. Puis peu de gens le savent, mais en Asie, c'est utilisé depuis plusieurs années.
Okay.
Puis il y a même des statistiques qui disent qu'un bol de riz sur trois qu'on va consommer dans le monde a été épandu par un drone. Donc, c'est des hélicoptères télépilotés. Donc, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécuritaire, moins nocif pour la santé en le faisant avec des drones. Et puis, l'autre usage où on va voir les drones, c'est pour la télédétection. Et puis ça, on peut même l'utiliser ici, on le voit de plus en plus en Amérique du Nord.
Uh-huh.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais ça veut dire qu'on peut faire passer un drone puis on va être capable de détecter s'il y a des plantes malades,
okay.
S'il y a des plantes qui sont pas suffisamment irriguées, puis on va être capable de voir les niveaux de sol aussi avec les drones là, pour voir si on doit ajuster ça. Il y a une meilleure irrigation du terrain.
OK, donc encore là, ça récolte de l'information, puis par la suite, on peut agir en conséquence et en
exactement.
Utilisant les drones. Transport de personnes, s'il y a des gens qui projettent ça, je pense que dans le coin de Dubaï, il y a déjà eu des tests où on essaye de développer des drones suffisamment puissants pour lever des gens. Penses-tu que ça, c'est envisageable?
Bien, comme vous l'avez mentionné, hein, c'est déjà en cours. C'est sûr, c'est des modèles prototypes, on fait des tests, mais ça fonctionne. Est-ce qu'on va le voir au grand public? On le souhaite. Ça fait déjà plusieurs décennies qu'on parle de la fameuse voiture volante. Encore une fois, il y a certains obstacles, mais on est rendu avec des autopilotes, une intelligence artificielle très poussée. Donc oui, on pourrait voir ça d'ici les prochaines décennies, sans doute.
OK, ben tu manqueras pas de travail. Je pense que les formations vont aller bon train. Charles, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous ce midi.
Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir. Charles Goyette, il est instructeur en chef à l'école e-drone. Je trouve ça fascinant de voir comment ça se développe, ce marché-là. Il y a des utilisations qui sont vraiment très, très, très pratiques. Puis déjà, aujourd'hui, on en utilise pour différentes raisons. Mais là, inquiétez-vous pas. Là, Amazon va pas se mettre à se promener dans le ciel de Québec tout de suite. Puis on n'aura pas tout de suite notre pizza par Uber. Là. Ça va prendre encore du temps.
Moi, je reste sceptique du moment parce que là, ça va tout être autopiloté.
Tu vas rentrer les coordonnées, t'as ton corridor de vol, puis tu vas pouvoir partir, en principe.
C'est ça, mais il faudrait pas qu'il y ait un problème puis que ça se mette à tout tomber. Hein.
Ça tombe ses chars en bas, imagine le foutoir. Hein, où, les batteries lâchent finalement, il y a un bug de batterie, le drone y tombe.
Je pense que ça donnerait un bon film catastrophe.
Garde l'idée, il ne faut pas que tu la donnes dans ce temps-là. Donc, en tout cas, si jamais ça vous intéresse d'en savoir davantage ou même de vous former, le 250 grammes, comme il disait, il y a des petits drones qui sont plutôt abordables et qui sont grand public, qui sont soumis aux nouvelles réglementations. L'école e-drone, c'est e-drone-montréal.com.